avec le tsar d'Esav. Et le tsar d'Esav, c'est, vous vous souvenez, de la gamatria que nous avons vue il y a 15 jours, lorsqu'il s'agit de l'éventualité d'un Ben Rivka, qui ne serait pas Yaakov Ben Rivka, alors la gamatria donne Satan. Et c'est ce que le Midrash dit, que le tsar d'Esav, c'est le Satan lui-même. Il y a une autre gamatria que les kabbalistes signalent, c'est qu'Esav a pour valeur numérique Nachash Chai. Nachash Chai. Ça veut dire que c'est le Nachash Chai. Le Satan en haut et le Nachash en bas. Et c'est ce que dit le verset. Kilo Nachash de Yaakov, puisqu'il est chez Esav. Et bien, je garantis que c'est pas moi qui écris ce verset. Bien. D'ailleurs, il y a un Midrash qui dit que Esav était né avec un Nachash tatoué sur la hanche. Bien, pour revenir à notre problème, Jacob a donc à lutter avec une manière d'être homme qui représente un potentiel spirituel considérable. Bien sûr, un potentiel spirituel négatif, mais les contre-valeurs ont la même charge affective et spirituelle que les valeurs elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une puissance de nature divine, bien que du côté du mal, contre laquelle il faut lutter. C'est-à-dire une certaine manière d'être homme qui a fait exister une manière d'être ange correspondant contre laquelle Jacob doit lutter pour arriver à obtenir ce nom d'Israël et à finir par vaincre. Est-ce que vous comprenez le principe du jeu-là ?
Oui, il s'agit d'une physique.
Il va s'agir d'une lutte physique et spirituelle. C'est ce que nous allons voir immédiatement. Et l'épisode par lequel Jacob obtient son nom d'Israël, c'est lorsqu'il finit par vaincre l'ange d'Ésaü. Donc, dans le sens un peu de ce que nous venons de voir, le principe spirituel de ce que représente l'identité d'Ésaü. À la limite, si vous voulez, reprenons l'équation historique de base. Entre Jérusalem et Rome, la Rome païenne, la Rome de l'Empire, la Rome de Titus, de Vespasien, Israël de l'époque, la Judée, a perdu la guerre militaire contre Rome, mais elle a gagné la guerre spirituelle. Et d'ailleurs, notre principale troupe de choc, c'était les commandos chrétiens à l'intérieur de l'Empire romain. Vous comprenez ce que je veux dire? Et bon, la guerre n'est pas finie, mais en tout cas, elle est gagnée. Parce qu'il ne reste plus rien de Rome de l'époque, sinon des statues, des musées, des livres, des universités. Mais la Judée de l'époque, elle n'a pas disparu, c'est que c'est nous. Tandis que les Romains. Vous comprenez le problème? Ça veut dire qu'il a fallu lutter, non pas seulement contre la manière d'être homme purement matériel, physique, historique, donc de nouveau immanent, de Ésaü, mais contre son génie de civilisation. Et nous savons à quel point ce génie de civilisation est grand dans sa force, puisqu'il est Orma par rapport à Chorma. Il est Ramaï. Voilà. C'est tout ce que le Midrash raconte, que Ésaü était tellement fort qu'il arrivait à tromper Isaac. Vous vous rappelez tout ça il arrive à tromper Isaac. Isaac croyait qu'il était sadique. Vous savez, nous tous, nous avons été à l'école occidentale, et nous avons toujours été remplis d'admiration pour ce qu'on appelle le droit romain. Jusqu'au moment où on devient un petit peu plus adulte, et on s'aperçoit que le droit romain, c'est le contraire de la morale. Ils ont réussi le tour de force à accuser les Talmudis d'être légalistes, alors que c'est Dafka, leur Mida. Vous comprenez ce jeu? C'est le fond du problème. C'est ce que le Midrash disait il y a déjà 2000 ans. En fait, c'est une civilisation vraiment de type Esav. Le Midrash explique que Ésaü était capable de juridisme, de légalisme. Il était capable de faire plus de pilpoul à la manière, dans le sens nord du pilpoul talmudique pour établir la halakha que Jacob lui-même. Il allait chez Isaac, qui faisait semblant d'être aveugle, et puis Isaac lui demandait qu'est-ce qu'il a appris à la Yeshiva. Alors, il répondait, Et puis on a appris les lois qui concernent la dîme qu'on doit donner sur le sel. On ne donne pas de dîme sur le sel. On ne fait pas de dîme sur le verre. Je ne sais pas. Mais vous voyez, quand ça arrive là, la super surenchère, alors que vous n'étiez capable de faire ça. Vous étiez capable d'établir qu'il y a une halakha pour le sel. Et tout ça, c'est romain. Ça. C'est le juridique. Alors il trompait. Il trompait Isaac. Je vais vous dire tout de suite un joli chidouche que vous connaissez déjà d'ailleurs, mais ça vaut la peine que je le répète. Dans un verset de notre Tidra, vous vous rappelez que quand Jacob a entendu que Esaü venait à sa rencontre pour lui faire la guerre avec 400 hommes de guerre, alors le texte dit Vaïra Yaakov Meod, Vaïtserlo. Regardez dans Rachid. Et Jacob eut très peur et il eut de l'angoisse. Alors, Rachid dit, voilà, Vaïra Shema Yehare, Vaïtserlo, Im Yaharob, Hu et Acheri. C'est bien ça? Oui. Alors, Vaïra Shema Yehare, c'est une vache. Il a eu peur d'être tué. Et il a eu de l'angoisse, de peur qu'il soit amené à tuer les autres. Vous suivez? Parce qu'il y a répétition dans le verset. Enfin, c'est un des exemples de cette répétition. Alors, la grande de Vilna a posé une couchée là-dessus. Il a dit, pourquoi il n'y a pas écrit, il a eu peur de tuer son frère. Mais pourquoi il dit, il a eu peur de tuer les autres? Shema Yaharov et Taheri, les autres. Quels autres? Vous comprenez, dans la logique, dans la balance même du Midrash, il a eu peur d'être tué, ou il était dans l'angoisse d'avoir à tuer son frère. C'est une lutte entre les deux frères. On a expliqué de cette manière-là que nous avons un très grand maître de la Gemara, duquel on a dit Stam Mishnah, c'est Rabbiné. Stam Mishnah, c'est Rabbiné. Et Rabbiné est un converti qui est venu de Edom. Nous avons d'ailleurs un clau de la Gemara qui est que Rov Agerim Baim Meedo, Mesa. La majeure partie d'ailleurs aujourd'hui des convertis au judaïsme vient du Christian. Et le Rabbi Meir était donc, nous dit la Midrash, inclus dans la Neshama de Essa. Mais c'était le corps de la Torah Sibalpé, Tam Mishnah Rabbi Meir. Et par conséquent, lorsque le verset dit que Isaac aimait Esaü, qu'il saïd Béfi, parce qu'il avait un gibier dans la bouche, le Midrash dit qu'il avait dans la bouche une croix. C'était la Neshama de Rabbi Meir. Il parlait avec la Neshama de Rabbi Meir lorsqu'il faisait du pitboule avec son père. Et alors, Jacob a eu peur de tuer Rabbi Meir. Parce que, à la fin, c'est Acher, il faisait Rabbi Meir. Ça, si vous avez fait un peu de Gemara, vous savez, savoir qu'il y a à la fin, c'est Acher, c'est Rabbi Meir, Acher, c'est Rabbi Meir. C'est ce que dit Rachid. Il a Shema Yaharov et Taherim. Et effectivement, ça c'est la grande différence qu'il y a entre la Chokhma du droit et la Torah. La Chokhma du droit, ça c'était la prérogative des Romains. Et lorsqu'elle est cachonnée, si j'ose dire, alors elle devient Torah. Et le Kohar de la Mishnah nous vient de Esav, Chokhma Me'edom. Elle dit le verset, Chokhma Be'edom Ta'amim. Mais lorsque cette Chokhma vient en Israël et qu'elle devient Torah, alors là c'est la bouche. C'est pour nous faire comprendre qu'il y avait ce corps de la Torah Shebaalpé dans le génie de Edom, dans la Neshama de Edom. Tout ceci pour vous illustrer le fait que ce combat de Jacob contre Esaü, c'est pas simplement la lutte au niveau des réalités purement terrestres, purement matérielles. Il fallait que Jacob arrive à lutter contre une réalité divine, c'est-à-dire le visage que la divinité elle-même tourne vers cette manière d'être homme qui est Esaü. Il faut comprendre tout cela à l'intérieur de la cohérence du monothéisme. C'est qu'il y a un aspect du projet de l'homme, dans la représentation que Dieu lui-même s'en fait, qui concerne la manière d'être, les valeurs de cette civilisation-là, les valeurs de ce génie-là. Et il fallait lutter contre cela et être capable de cette guerre-là. Est-ce que c'est bien clair? Bon. Et lorsque Jacob a réussi cette lutte, alors il est nommé Israël.
Alors les hommes
sont
les hommes.
Pardon?
Les hommes avec lesquels j'approche et
oui. Il y avait un homme. C'était l'ange lui-même de Essa, Ish. Et alors ça, c'est le terme duquel Jacob a été nommé Israël. Mais dans le début de la Sidra, on voit que Jacob veut faire la paix avec Ésaü. Il a échoué. Ésaü, comment dire, a une stratégie corollaire qui consiste à faire semblant de faire la paix. Il va échouer, mais quand même, dans son initiative, il veut faire la paix avec Ésaü. Et par conséquent, il faut aussi qu'il fasse la paix avec l'ange d'Ésaü. Et c'est pourquoi toute cette mission que nous avons, que les débuts du verset de la Sidra raconte, est racontée, descriptive, est racontée à deux niveaux. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il se prépare à deux paix simultanées, et comme ça va échouer, il aura à lutter deux guerres différentes. Alors d'abord, pour nous, de ce premier point, la mission de ces deux paix. Est-ce que vous me suivez? C'est bien clair? C'est-à-dire, simultanément, il offre la paix à Ésaü en bas sur terre et au génie de Ésav en haut dans le ciel. Alors on comprend mieux les termes, je vous relis maintenant. Vaïchla Yaakov Malachim Lefana. Et Jacob a envoyé des Malachim, je ne traduis pas encore, Malachim, on va traduire tout à l'heure des anges, Malachim Lefana devant lui, et la Ésav Achiv vers Ésaü, son frère. Et dans cette expression, il y a deux réalités. Il y a Ésav qui est le chef de ce Nachash Hai, de Roulé-Roulé, de ce Satan, et puis il y a en bas sur terre son frère. Et il faut comprendre que c'est vraiment deux frères. Ça nous avons étudié la semaine dernière. Hein? Je vous ai dit un peu de façon un peu brutale, un peu comme le bébé et le placenta, au moment de la naissance. Pas? Mais il y a la même intensité d'être des deux côtés. Ce sont vraiment deux civilisations sœurs, et elles ont été tellement entremêlées dans toutes ces péripéties de l'histoire à travers les siècles. Mais ça commence là, à l'origine. Arsa Sehi, Dehedom. Arsa Sehi, c'est en haut, Dehedom, c'est en bas. Vaïsavotam, les mots, Kotomeru, l'Adoni, c'est pour en haut, l'Esav, c'est pour en bas. Koama, Avdecha, Yaakov. Avdecha, c'est quand il parle en haut, Yaakov, c'est quand il parle en bas. Et Imla Ban Garti, ça c'est lorsqu'il parle en bas, Vaecha Arata, et lorsqu'il parle en haut. Nous verrons d'ailleurs peut-être dans Rashi et le Médrash. Alors prenons le premier Rashi. Vaecha, Yaakov, Malachim, Lefanav, et Rashi nous dit, c'est un Rashi très difficile. Rashi nous dit, disait Rashi, Malachim, Maman. Alors, le texte dit que Jacob a envoyé des Malachim, et ça veut dire des anges, des Malachim. Et Rashi nous dit, ça veut dire vraiment des anges. Oui, c'est un Rashi très difficile, parce que si le texte dit que c'est des Malachim, pourquoi Rashi nous dit que c'est des Malachim maman? Qu'est-ce qu'il veut expliquer? C'est-à-dire, quelle est la difficulté? Alors, il ne faut pas perdre de temps, nous allons aller immédiatement à la source de ce Rashi, qui est un Midrash Rabba. Dans le Midrash Rabba, il y a une Machloket. Certains disent, Shiluché Basarvadam, et d'autres disent Malachim Mamash. Shiluché Basarvadam, ça veut dire des envoyés de chair et de sang. Et Malachim Mamash, ça veut dire des anges vraiment. Le mot de Malach, ça veut dire envoyé. Mais il signifie ange, chargé de mission. Alors, il y a une marque dans la Midrash, les uns disent Shiluché Basarvadam, et les autres disent Malachim Mamash. Alors, finalement, nous voyons que les deux ont raison. Les deux sont à l'intérieur de l'enseignement du texte. Puisqu'il y a deux guerres. Il y a à la fois, et donc deux missions de ces envoyés. Il y a à la fois vis-à-vis de Ésaü sur terre et vis-à-vis du sar de Ésaü dans le ciel. Et par conséquent, le texte, le mot de Malachim signifie les deux choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi une opinion du Midrash met l'accent que le chidouche, c'est des Shiluché Basarvadam, et l'autre partie du Midrash met l'accent sur le fait que le chidouche, c'est des Malachim Mamash. Vous avez compris l'explication? En fait, nous voyons bien, d'après l'introduction précédente, qu'il a envoyé et des Shiluché Basarvadam et des Malachim Mamash. Pour s'adresser aux Sars, il faut envoyer des Malachim, ça veut dire qu'il en dispose. Et pour s'adresser à Ésav, il faut envoyer des Shiluché Basarvadam. Et d'ailleurs, dans la réponse, je signale en passant rapidement un des versets. Dans la réponse de ces malachis, d'ailleurs, ces malachis ne sont même pas arrivés jusqu'à Esav, ils sont revenus prévenir Jacob. Il dit Vegam holer ikratra, au verset 7. Vegam holer ikratra. Ce gam introduit le sar de Esav. Vous comprenez pourquoi? Gam, ça veut dire quelque chose de plus. Pas seulement Esav vient contre toi. Mais même le sar de Esav vient contre toi. Je suis en hébreu. Vegam holer ikratra. Et le Midrash rapproche ce gamme d'un verset de Job. Vous verrez dans le début de Job, quand tous les anges se rassemblent pour parler de Job, le verset dit « Vayavo gam ha-satan betocha » et est venu même le Satan avec eux. Alors le Midrash dit « Gam, c'est le Satan ». Vous voyez bien, le gamme, vous l'avez dit, c'est-à-dire, c'est du nom du gamme. Et effectivement, Jacob, selon le verset, a donc envoyé des Shiluchim Asavadam pour parler à Esav et des Malachim pour parler au Sardes. Les Malachim, comme nous verrons tout à l'heure, c'est le Shrut, le Shruyot de Yaakov, bon, c'est mérite. Alors, le Midrash nous dit, est en marloquet. En réalité, cette marloquet indique les deux aspects complémentaires du même enseignement. Le Midrash nous dit ceci. Vaishlach, Yaakov Malachim, et Jacob a envoyé des Malachim, où est le Chidouche? Le fait qu'il envoie des Chidouche et Basavadam, ça va de soi, donc le Chidouche, c'est qu'il envoie aussi des Malachim maintenant. Ça, c'est pour l'opinion que retient Rachid. Mais l'autre opinion du Midrash, le fait qu'il envoie des Malachim maintenant, ça va de soi, et le Chidouche, c'est qu'il envoie aussi des Chidouche et Basavadam. Et c'est là que nous retrouvons notre premier Midrash de tout à l'heure. Vous vous rappelez, la première introduction que nous avons, que tantôt le Midrash loue Jacob de cette initiative, ça c'est quand elle s'adresse en haut. Mais tantôt il s'étonne, ça c'est quand elle s'adresse en bas. Ça c'est votre indication, que le Chidouche, c'est qu'il aurait envoyé les Chidouche et la Salvador. Et vous vous rappelez de la règle d'explication de Rashi. Rashi explique pour son temps. Rashi explique la Torah qui a été donnée aux Hébreux pour les Juifs. Le sens de la Torah donnée aux Hébreux, le pshat de la Torah donnée aux Hébreux, c'est pour le temps des Hébreux. Mais Rashi vient nous donner le sens de ce même texte pour le temps des Juifs. Quelle est la différence? Mais la différence, c'est d'avoir une différence d'époque. Mais surtout le contenu de cette époque. Le temps des Hébreux, c'est le temps où il y a révélation, où il y a prophétie. Le temps des Juifs, c'est le temps de ce même Israël, mais lorsqu'il n'y a plus de prophétie. En tout cas, à l'intérieur de cette règle générale, vous rappelez de ça. Il ne faut pas oublier que Rashi a été le principal commentateur, alors qu'il était en plein dans ce problème de Jacob et Esaü. Il était en plein dans la controverse entre les communautés juives d'Europe et la civilisation ambiante, qui était déjà plus que gallo-romaine. Elle était déjà romaine, maman, en France. Et alors, Rashi cite du Midrash ce qui va pour l'enseignement de la Torah, pour les Juifs auxquels il parle. Lui, il est Rashi. Vous comprenez, Rashi, c'est la Torah pour le temps des Juifs. C'est la raison pour laquelle on considère le texte de Rashi comme presque aussi kadosh que le texte de la Torah lui-même. Alors, c'est connu, d'ailleurs, je vous cite une grande autorité comme le Shla. Il me dit, il faut savoir que Rashi a été donné, le texte de Rashi venait de Ruach HaKodesh. Le Shla, c'est pas n'importe qui, c'est le Shnei Luchot Avru. Le grand rabbi Shayahu Horowitz, qui est le grand des chassidim. Et sans compter les autres. Et ça se trouve dans le Masechet Shuot, dans le deuxième Darush du Shah, sur Shuot, sur Pentecôte. Et qu'il faut bien faire attention à chaque mot de Rashi. Vous connaissez d'ailleurs la grande phrase qu'ont cité les élèves de Rashi. Qu'il est resté, c'est joli homme, qu'il est resté plus de sagesse dans la goutte d'encre qui a séché dans le coulmos de Rashi qu'il y a de vagues dans l'océan. C'est-à-dire qu'il y a plus dans ce qu'il n'a pas écrit que dans ce qu'il a écrit. Et alors, Rashi nous dit, pour nous qui lisons ce texte, c'est l'opinion du Midrash qui dit, si je fais la Malachim Mamash, si je me trompe, corrigez-moi, Malachim Mamash, qu'il faut dire, Malachim, C'est-à-dire que ce n'est plus le cas où on enverra des Shiyuche Vassarvadam, quand le Congrès mondial envoie une délégation au Vatican, ça arrive. Mais ça, c'est Shiyuche Vassarvadam. Mais c'est le cas où il faut envoyer Malachim Mamas au Sav, c'est vrai ça, pour essayer de faire la paix avec. Ça, c'est dans ce premier épisode. Voilà. Est-ce que vous comprenez bien l'articulation maintenant de tous ces midrashim? Mais ça reste difficile, tout ça. Vous ne croyez pas qu'on a fini d'étudier. Parce que, dans le fond même de ce midrash, c'est difficile. Puisque le texte dit Malachim, pourquoi le midrash nous dit Malachim Mama? Tout ce que le midrash nous dit, le texte l'avait déjà dit. Le texte a dit Malachim. Alors, je pense qu'on peut peut-être s'approcher un peu de la difficulté par ce biais-là, de cette clé que le midrash nous donne pour ce texte, qu'il y a deux récits parallèles qui s'entremêlent. Dans l'un, Jacob est aux prises avec le Tsar de Esav, et dans l'autre, Jacob est aux prises avec Esav lui-même. Bien. Alors, la question que j'attends depuis tout à l'heure, je n'ai pas encore...
Et pourquoi il ne se base pas au niveau des charines?
Voilà. Voilà. Et la question est la suivante. Mais est-ce qu'Israël n'a pas de Tsar qui se battrait pour lui en route? Alors, il faut savoir qu'Israël n'a pas de Tsar. Parce que c'est Dieu lui-même qui est le Tsar d'Israël. Donc, Israël n'a pas de Tsar. Est-ce que vous comprenez bien tout ce que je dis? Mais je vais expliquer, parce que c'est trop dangereux. Je vais faire comme ça. Mais c'était joli, une seule phrase. Parce que... qu'est-ce que dit le verset? Ve'atem ki yuli le'am, ve'ani ve'atem le'otu. C'est Dieu qui parle à Israël en lui disant, et moi je serai pour toi ami. C'est-à-dire qu'Israël n'a pas. Alors, c'est-à-dire, chaque je vais prier. Si, il y a une mazal d'Israël. Il n'y a pas de sens. Voilà ce que ça veut dire. Chaque nation est une des manières d'être homme qui est le résultat de l'éclatement de l'unité humaine à Babel. Vous vous rappelez? Et chacun des sarines représente un des goïms, c'est-à-dire une des manières partielles de cette tentative humaine d'incarner le célèbre Elohim. Alors, on comprend ce que ça veut dire qu'Israël n'a pas de star. Louange. C'est-à-dire, Israël n'est pas un parmi les goïms qui aurait une figure qu'on peut représenter en idole, d'ailleurs. Vous comprenez? C'est-à-dire, Israël, c'est le projet du Créateur lui-même. Et par conséquent, il n'y a pas de star qui correspond à Israël. Et c'est pourquoi c'est Jacob qui doit se débrouiller tout seul. Et c'est la seule manière d'être homme qui est capable de cela, de lutter au niveau des réalités célestes, et au niveau de la réalité terrestre. C'est pour ça qu'Israël engendre la panique à travers l'histoire. Hein? Parce qu'il est capable de lutter au niveau des salines. Il est capable de lutter contre les ennemis et de l'histoire, et pas seulement contre les hommes dans l'histoire. Est-ce que vous comprenez cela? Bon. Alors, je vais quand même compléter un peu l'enseignement. Ça, c'est un enseignement important de la Gemara. Israël n'a pas de ça. Israël n'a pas de mazal. Mais la Gemara dit aussi que c'est pas dans tous les cas. Si Israël est vraiment Israël, alors il n'y a pas de tsar d'Israël. Mais si Israël n'est pas vraiment d'Israël, alors il y a un tsar pour Israël. Mais ce tsar pour Israël, c'est un tsar un peu spécial. C'est pas n'importe lequel. C'est les tsarim, c'est les archanges dont parle le livre de Daniel. Mais les archanges, il y en a un parmi eux qui est spécial. C'est Michaël. Et Michaël, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui est comme Dieu. Vous avez compris? Michaël. Alors, ça veut dire que chaque fois que Israël se fabrique un tsar, le tsar en question n'a qu'une seule chose à lui dire. Regarde plus haut. Michaël. Et alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans la théologie chrétienne, et lorsque la théologie chrétienne a distribué les archanges aux nations, elle a donné l'archange Saint-Michel à la France et à l'Église. C'est-à-dire, il y a eu d'ailleurs, au début de l'histoire chrétienne, il y a eu toute une série d'hérésies qui tournaient autour du fait que le Messie des chrétiens était nommé Michel. C'est-à-dire qu'il y a eu des églises hérétiques, et qui sont devenues hérétiques parce que les hommes ont triomphé, qui reconnaissait comme, non pas le fils de Dieu, mais le prince des anges, c'est-à-dire Michaël, et pas le Dieu. Bon, je vous dis ça en passant pour vous montrer que c'est toute une histoire dans la zoologie chrétienne. Et alors, c'est très important, parce que, pas spontanément, c'est toute une force marque, finalement, que la théologie chrétienne, catholique en particulier, a attribué à l'Église comme terre et comme substitut d'Israël, l'archange d'Israël. Mais alors, c'est un profond chokhma, parce que ça veut dire que l'Église sait qu'elle représente un Israël qui n'est pas Israël, puisqu'elle est vue comme archange d'Israël. Ça, c'est pour la cohérence des théologies. Et alors, bon, ben, la France, ben, c'est la France, vous rappelez notre ami, la fille aînée de l'Église, et le fils aîné de Dieu. Pour le moment, il y a le tirage. Dans tous les fiançailles, ça marche pas toujours. Mais enfin, malgré tout, c'est quand même en France qu'il y a eu, d'une part, l'abbé Grégoire, enfin, je veux dire, l'émancipation, et d'autre part, Hercel. Enfin, c'est que la France fait partie de tout ça. La fait Dreyfus, en fait. Et l'émancipation dans la révolution, après la Révolution française, et le sionisme après la fin. Et puis l'Alliance israélite universelle. Alors voilà donc en ce qui concerne ce problème. C'est-à-dire en fait, Israël n'a pas de tsar. Il a un avocat qui plaide pour lui, c'est Michaël, mais Michaël, en quelque sorte, n'a pas d'équation personnelle. Il n'est là que comme relais vis-à-vis du Créateur lui-même. Bien, alors voilà, si vous voulez, pour ce thème, et puis je voudrais vous l'éclairer très rapidement sur un rachis qui est bien connu, que vous avez étudié l'année dernière d'ailleurs. C'est Englavan Garti, Tariag Mizo, Tramar. Vous avez ce rachis. Alors prenez, à la fin du premier verset, Englavan Garti, Vaechar Avata. Rachis commence par lui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai séjourné chez Laban, Garti. Jacob a expliqué à Esaü pourquoi il a tardé jusqu'à présent. Lona Asiti Sarvechashu, dire je ne suis pas devenu important, prince, noble, puisque j'étais, et là, guerre, puisque j'étais comme un évêque, guerre. J'étais un étranger, c'est là-bas. Alors que c'était l'oncle, le beau-père. El Khakeda, il se aussi à Bertatadir. Par conséquent, tu n'as pas à me haïr, tu n'as plus à me haïr, à cause de la bénédiction de ton père. Voilà la première explication, El Navangarti, j'ai séjourné, c'est là-bas. En hébreu, ça veut dire j'ai été inférieur, Garti, comme un étranger qui n'est pas jeune. Et par contre, on ne croit pas que je t'ai pris ta bénédiction. En fait, mon histoire n'est pas celle que tu m'accuses d'avoir. Et c'est ce qu'ils vont dire d'ailleurs à toutes les nations du monde, alors qu'ils nous accusent d'être un peuple, comment il dit l'autre, chef de vie, dominateur, alors qu'en réalité, nous avons été des métèques partout. C'est ce rachis-là. Bon. Et puis rachis ajoute, d'avaraché, deuxième explication, Begematria. La valeur numérique de Garti, c'est Tariag, 616 mitos. Keloma, et il n'a pas un rachat Garti, mais Tariag mitos de Samarti. Et là, la matinée m'a assavala. Bien que j'ai séjourné chez Lavan le rachat, malgré cela, je n'ai pas appris son influence, et j'ai pu préserver Samarti, les 613 commandements de la Torah. Ce qu'effectivement Israël peut dire, nous sortons d'une civilisation épouvantable qui nous a fait la guerre contre la Torah pendant 2000 ans, et malgré cela, nous sommes revenus avec nos Gemarot. Et c'est exactement ce que dit Rashi. Tariag Mitzvot Shamar. Alors on voit très bien quelle est l'intention du commentaire. Une des paroles est lorsque Jacob parle à son frère sur terre, et l'autre, lorsque Jacob s'adresse à l'ange. Il lui dit à nous deux, parce que j'ai eu l'épreuve la plus dure. Avoir traversé la civilisation blanche, une lavane garti, et que à Frakir, et le Tariag Mizo Tsamarti, ça fallait le faire. Et vous comprenez quel est le. quel est l'exemple que l'on pourrait prendre. Et je vais vous donner un deuxième miracle sur la fin du verset, Vaecha ad ata, et j'ai tardé jusqu'à présent, et j'ai tardé jusqu'à maintenant. Le miracle dit que Jacob veut expliquer à Ésaü pourquoi il a tellement tardé. Parce qu'après tout, si ce qui est le cas, ce qui est le cas, l'initiative qu'il y a ici, c'est de faire la paix avec Ésaü, et encore une fois, avec cette ambiguïté du jugement du Midrash, la grandeur de Jacob, qui malgré tout veut faire la paix avec l'autre, parce que l'autre c'est quand même son frère. Et puis, d'autre part, cette espèce de, comment dire, d'échec que cela arrive de représenter, lorsqu'on voit une sorte de flirt entre Israël arrivé au bout de cette histoire si terrible, et puis qui joue à courtiser la civilisation goyenne. Vous comprenez ce qui se passe maintenant à travers le monde, depuis l'émancipation, etc. Ben, nous avons tous cru que nous étions, nous disons toujours, bon, les ancêtres, nos ancêtres gaulois, ça nous aide un peu. On n'est pas très bien aimés, il y en avait qui croyaient. Mais nous avons tous cru que nous faisions partie des hommes. Chaque fois que nous avons cru, nous faisions partie ou de l'Italie, ou de la France, ou du point de vue à la manière des Français. Que ce soit à la manière de Rachid, autre chose. C'est-à-dire la communauté juive en France, ça c'est autre chose. Un rôle à jouer. Et Rachid, en tout cas, lui, a réussi. Mais que ce soit à la manière des Goyim, ça c'était une double tromperie, une double trahison. Cette espèce de fleur, là, c'est très bas. Ça arrive d'être très bas. Donc si l'initiative c'est de faire la paix, il faut donc, d'après ce pchat, que Jacob explique à Ésaü pourquoi il a tellement tardé. Après tout, si on voulait offrir la paix à la civilisation des hommes, pourquoi on a mis 2000 ans pour ça? Alors le Midrash nous dit, Vaechad alata, et j'ai tardé jusqu'à présent. Vous pouvez vous rattacher ça, ce que nous avons appris la semaine dernière. Jusqu'à quand Jacob va tarder avant de décider, Nigma, on rentre ce soir? Quand? Quand Joseph. Et c'est ce que le Midrash dit. Vaechad alata, ça veut dire j'ai attendu jusqu'à présent, parce que Joseph n'était pas encore né. Maintenant que Joseph est né, je peux le faire rencontrer. Puisque la force de Jacob par rapport à Ésaü, c'est Joseph. Vous vous rappelez de ça? Et le Midrash complète en disant qu'il faut rapprocher ce Ata d'un autre Ata qui se trouve dans le verset de Devarim, chapitre 6, verset 12, le verset où la Torah enseigne la loi de la Tshuva. Et Ata Israël, Ma Hashem, Shoel Neima. Il ne ira Verata Israël. Quel Ata, c'est Verata Israël. C'est-à-dire que Jacob a dû attendre, Devarim 6, 12. Jacob a dû attendre jusqu'au moment où le corps de la Tshuva pouvait apparaître. Vous comprenez le rapport de l'éversité. Vaecha al Ata. Quelle est la question de Tshuva? La question de Tshuva, c'est al Arshav. Pourquoi al Ata? Ata, ça nous renvoie à un contexte où Ata est expliqué. Atayadarti qui est le Kimata, et puis surtout ce Ve'ata Israël, machin chose. Mais ma, qui les ira. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas eu cette espèce de Tshuva, de force de la Tshuva qui s'est faite en Jacob, Jacob ne pouvait pas décider de revenir. Et Tshuva, ça veut dire le retour. D'ailleurs, littéralement.
Mais Joseph est bénéficiaire de la diaspora.
Pardon?
Joseph est bénéficiaire de la diaspora.
Oui, Joseph, c'est le Messie. Qui ramène les Juifs de la diaspora. C'est ça, ma chère Vénère. Et Judas, c'est le métier de la transfiguration pour le monde à venir. Ne vous trompez pas, Joseph, c'est pas, comment dire, le matriarche qui s'installe dans la diaspora. Ça, c'est le Juif assimilé, ça, c'est un Joseph qui échoue. Joseph, c'est le matriarche qui ramène même les ossements en Arabie, même les Atamos. Il ne faut pas laisser de trache. Nous retrouvons d'ailleurs le thème dans l'histoire de Joseph plus tard. Et bon, alors nous allons passer maintenant pour un quart d'heure au Benishraï. C'est-à-dire nous allons retrouver le même thème au niveau du Benishraï. Mais juste avant cela, je vais citer une explication donnée par Imre Yosef, et qui dit ceci, qu'on peut indiquer que Rachid a choisi l'explication de Malachim, ma marche. Parce que, effectivement, c'est Jacob qui dispose de cette force du malach. Le malach, c'est cette réalité d'en haut qui apparaît dans la relation entre le projet de Dieu et ce que l'homme en fait. Chaque réalisation est régie par un malach, c'est-à-dire l'envergure de la volonté du Dieu unique pour la réalisation en question. Vous donnez l'exemple le plus simple que donne les textes. Les noms des malachim se terminent tous par le mot « elle ». Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est Dieu lui-même, c'est la volonté de Dieu lui-même, mais en tant qu'elle est désignée comme concernant tel ou tel aspect de la réalité. Par exemple, Raphaël, c'est Dieu s'occupant de guérir la maladie. Raphaël, etc. Par conséquent, le malach, c'est la diminution, le tzimtzum, la diminution de la virgule du Rachon Hachem pour qu'elle est elle réalisée. Ça, le malach. Et on apprend dans ces textes-là que Yaakov dispose des malachim, ça veut dire qu'il est arrivé à un stade d'identité humaine où effectivement il y a relation dévoilée entre le projet de Dieu et sa réalité à lui, Jacob. Et dans les deux sens, les anges qui voient dans le rêve de l'échelle, c'est les malachim qui montent et qui descendent. Dans le sens qui va du Kéli au haut et du haut au Kéli. Si vous ajoutez d'ailleurs, c'est Mavaï avec qui, avec Adonai 65, vous avez la valeur numérique du mot malach. Hachem, voilà. Mais ce que le Hébreu aussi conseille, c'est que malachim est un pluriel, le plus petit pluriel, c'est deux, et qu'effectivement Jacob dispose de cette réalité du malach dans les deux sens, de haut en bas et de bas en haut, parce que la valeur numérique de Jacob, ça fait deux fois celle de malach. Donc il y a là une limite importante. Alors maintenant, nous allons voir très rapidement le Ben Israël sur ce thème-là, et ensuite, après l'Afrika, nous étudierons le Ben Israël. Alors, prenez le Ben Israël. Ben Israël, je vous le dis directement parce que tous les éléments, nous l'avons déjà dans l'histoire. Voilà. Vayomer lo Elohim, Shimcha Yaakov, Loïkare Shimcha Aod Yaakov, qui Israël y est chemin. C'est le verset que nous avons vu tout à l'heure, que Dieu s'adresse à Jacob pour lui dire, ton nom, c'est Jacob, mais ton nom ne sera plus encore Jacob, ça ne sera plus qu'un Shimcha Aod, c'est-à-dire qu'un nom occasionnel. Shimcha Aod, Shimcha Yaakov, qui Israël y est chemin, mais ce sera le Israël qui sera ton nom. Vaïkra est chez moi Israël. Alors il est destiné à être Israël. Nous avons vu tout au début que voilà, maintenant c'est toi Jacob qui peux être le véhicule, le support de cette identité qui se nomme Israël et pour qui le monde a été créé. Je vous avais dit souvent, n'importe quelle lignée humaine aurait pu devenir Israël. Jacob, c'est la lignée humaine qui a pu devenir Israël. Alors il a reçu ce nom d'Israël et il se dévoile a posteriori, qui vient a posteriori, que c'est pour lui que le monde a été créé. Donc il était kadosh, mais bêtel. Il était kadosh de l'origine, de la racine, puisque c'est lui qui a tout réussi. Bien. Mirali, Bishara, Bishmaya, Ta'am, Leitron, Shem Israël, Ashurnatando. On peut comprendre de cette manière le surplus de signification du nom d'Israël que Dieu lui a donné à Jacob, Vehu. Et c'est le fait qui, Israël, que le mot d'Israël, Humispar, Yaakov, Moshe, David. Que le mot d'Israël équivaut à Jacob, Moshe et David. Par conséquent, il y a quelque chose de plus dans Israël que dans Jacob, et c'est quoi? C'est quelque chose de plus, ce trône, c'est ce que représente Moshe et David. Vous voyez quelle est l'équation qui se met en place? Je veux dire, Israël a la même valeur numérique que à la fois Jacob, Moshe et David. Or, Israël, c'était Jacob. Donc, au niveau du nom, ce qu'il y a de plus dans Israël, c'est Moshe et David. Jacob, c'est l'engendreur de... Jacob, c'est l'engendreur d'Israël. C'est le père. Moshe, c'est le maître. Et David, c'est le roi. C'est-à-dire qu'il y a trois fonctions qui ensemble sont Israël. Qui d'ailleurs, toutes les trois sont des fonctions messianiques d'ailleurs. Mais comprenez bien. Israël, c'est plus que Jacob, en ce sens que Jacob fabrique la nation d'Israël. Kelly, la Ouma, la société d'Israël, c'est bien clair. Mais elle resterait Jacob comme Kelly purement tant qu'elle ne reçoit pas ce que Moïse lui a donné et ce que David a confirmé. Le fait que Moïse ait donné la Torah et que David ait rendu la Torah souveraine sur Israël. Alors là, ces deux fonctions-là, on apprend qu'elles sont annoncées à Jacob, elles lui sont reconnues à l'échelle individuelle, mais en tant que Jacob, il est l'engendreur du peuple, le père, mais en tant qu'Israël, il est aussi en germe, et Moshe, et David, qui sont donc les trois fonctions pour qu'Israël puisse être ce plus loin. Les Shoshas, Tzadikim, Elou, Tzrichim, Yod, Bechibur, Echad. Parce que ces trois, Tzadikim, Jacob, Moïse, David, doivent être Bechibur, Echad. Vraiment Bechibur. Unis. Chibur, c'est plus que simplement ensemble. Chibur, unifié. Eh bien, si nous jetons un coup d'œil sur la situation contemporaine, on s'aperçoit que ces trois forces-là, Jacob, Moïse et David, ne sont séparées. D'où le balagan qu'il y a en Israël. Mais il faut qu'elles soient des chibour. Vous comprenez ce que je veux dire? Jacob, c'est Sam Amcha. Et puis, Moshe, c'est le rocher Shiva. Et David, c'est la même Shala. Mais quand ces trois choses-là seront des chibour, alors apparaîtra le Hari Sheva Habura. Alors, effectivement, Israël, c'est Israël. C'est le chibour qui va nous dire. Qui est l'Ukrinat Vavhe Shebeshe. Parce que Moshe, pardon, Yaakov, Moshe et David ensemble représentent la réussite des Kélim, les deux dernières lettres du nom de Dieu, Vav et le Shema Vaya, Yotirake, déploie la souveraineté de Dieu sur le monde et. Les deux dernières lettres représentent un ensemble de valeurs qui ont été précisément réussies dans l'histoire par Jacob, Moïse et David. Le Hé d'Abraham, c'est le premier du Rolam Abdina. Le Hé d'Abraham, c'est le Hé de Bina. Ici, c'est le deuxième. De Malchut. C'est de Malchut et de Lille David. Nous allons voir un peu en détail. Nous allons un petit peu aussi décrypter ce vocabulaire. Et c'est ceci. Vous savez qu'avant toutes les mitzvot, nous disons une formule de préparation à la mitzvah, que la mitzvah va être faite dans l'intention d'unifier Yudke et Vavke. Pour ceux qui ont un peu la familiarité des mitzvot, c'est l'échelle du tout qui sert de tout ce. Ça veut dire que nous allons agir cette mitzvah et tenter de réaliser cette valeur en vue d'unifier Kushavrichu Ushrinite, Dieu et sa présence, littéralement. Kushavrichu, saint béni soit-il, ou Ushrinite et sa présence. C'est en araméen. Ça veut dire qu'il y a un projet de Dieu qui est nommé dans le nom divin Yudke, c'est le Olam de Chochma et Bina, comme dit le Kabbaliste, c'est-à-dire la vision assurée et parfaite a priori de ce que l'être doit être. C'est dans le Yud et dans le Hé. Yud, au niveau de la vision de ce qu'il y a à faire, et Hé, du monde qui fera cela. C'est-à-dire qu'il y a un Olam de Yud et Hé, qui est l'Olam supérieur, qui est l'Olam du projet que Dieu se représente. Notre monde est parfait déjà, au niveau du projet. Est-ce que vous suivez ça? Par exemple, lorsque nous disons Alléluia, 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 ça veut dire louer, ya. Ça veut dire que nous pouvons déjà louer le nom de Dieu au niveau des deux premières lettres. Yud et ya. Parce que là, c'est déjà parfait, puisque c'est la vision du projet. Et cette vision du projet, elle est donnée à la réalisation. Alors le Yud descend et devient Vav, et le Hé d'en haut, elle se retrouve dans le Hé d'en haut. Alors, Vav et Hé, ce sont les mots, les mondes de Yetzira et Asiya, ce sont les mondes de l'incarnation, littéralement, des valeurs qui sont en germe dans Yud et Hé. Alors, tant que dure l'histoire du monde, tout se passe comme si Yud et Hé est séparé de Vav et Hé. Alors, faire une mitzvah, ça veut dire unifier la vérité et la réalité, le monde de la réalité, en cours d'histoire, c'est bavé. Le monde de la vérité, c'est l'idée. Alors, Ferimidva, c'est unifier le monde de la vérité et le monde de la réalité. C'est ça, Torah. Dans toutes les cultures, le monde de la vérité est en haut et il reste en haut. Le monde de la réalité est en bas et il reste en bas. Et on renonce. Il y a vraiment un renoncement à l'idée qu'on pourrait unifier, qu'on pourrait faire descendre la vérité dans la réalité ou faire monter la réalité dans la vérité. Alors c'est ça, ce sod de l'Eyachet Kutsav Rikou, je vous disais, de Yichud Sharet, de Yichud Ke, de Vafke. D'ailleurs, il y a un verset qui le dit, ça, l'Aya Batom Arou, il y est Hashem Echad Shmer. Il y est, ça veut dire, il sera. Le Shem, il y est, c'est le Shem du monde à venir. Il sera. D'ailleurs, ça veut dire, il sera, il y est. Et dans il y est, alors c'est Yah Yah. C'est-à-dire le Vav redevient Yud. Le Vav a repris la dignité de Yud. Le chêne du monde à venir, c'est Yigé. C'est le verset qui le dit. Yigé. Dans ce monde-ci, c'est Yudke, Vavke. Mais dans le monde à venir, c'est Yudke, Yudke. Yigé, il sera. C'est ce que le Ben Israël nous explique ici. Et il dit donc, nous avons Jacob et Moshe.